Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Une émission en partenariat ce midi avec le guide gastronomique Le Fooding, dont l'édition 2022 a paru jeudi avec un palmarès tout beau tout chaud, issu des quatre coins de l'Hexagone. Le même Fooding organisé en septembre, un festival au cours duquel des acteurs et des actrices de la restauration ont témoigné de la façon dont ils ont fait face à la pandémie, à son lot de fermetures, de confinement et de contraintes en tout genre. Et c'est à cette sorte de bilan d'étape que nous aimerions nous atteler ce midi, avec cette question: à quoi ressemble la restauration d'après? Pour y répondre, un dispositif exceptionnel, avec une foultitude d'invités, autant de témoins de l'évolution des pratiques alimentaires et de la révolution qu'elles suscitent dans le monde de la restauration. 5 seront au téléphone avec nous successivement, et en studio, un observateur. Emmanuel Rubin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes
c'est moi.
Chroniqueur gastronomique du Figaro depuis 30 ans. Vous avez cofondé le Fooding Première Génération en 2000. Alors la première question va être pour vous, naturellement. Dans quel état trouvez-vous la restauration? Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue du site Atabula, Franck Pinère à Barouste, qui écrivait il y a quelques jours « Les restaurants sont au bout du rouleau, ils sont à deux doigts du burn-out ».
Ils sont sous le choc. Ils sont sous le choc parce que vous comprendrez bien que si on reprend la séquence de cette crise sanitaire, pour la première fois, ce monde du restaurant a été enfermé, interdit. Alors pour peut-être des bonnes raisons, je suis pas là pour en débattre. Si ce n'est que forcément quand vous vivez cela et que vous en sortez, vous êtes sous le choc. Alors ça a pu d'ailleurs créer un électrochoc. Un électrochoc qui a aujourd'hui installé les restaurateurs dans un questionnement qui fait qu'ils se posent des questions sur leur avenir et notamment sur ce qui l'active leur avenir, c'est-à-dire leur personnel. On l'a vu, il y a une énorme pénurie en ce qui concerne les chefs comme les serveurs. Beaucoup, au détour de cette crise, ont envie de se réinventer. Vers où, ça je ne le sais pas. Parfois ils veulent quitter les grandes villes pour aller continuer leur métier plutôt vers la campagne. On pourrait parler d'un néo-ruralisme. Et pour d'autres, je ne sais pas où ils en sont. Ils cherchent peut-être une nouvelle vie. Et ça raconte un métier qui est effectivement un métier qui avait besoin dans sa structure de personnel, donc économique, de se réinventer parce qu'on sait que c'est un métier dur et que cette dureté, notamment dans les horaires, avec cette fameuse coupure,
les conditions de service,
toutes ces conditions de travail, elles ont certainement besoin d'être questionné et d'être réinventé. Donc ça va être là qu'aujourd'hui, les restaurateurs vont devoir travailler. Pour autant, ils sont vraiment en état de choc. Et ça a été une énorme crise pour beaucoup économique. Malgré les aides de l'État, ça suffira pas. Des aides qui, parfois, devront être remboursées. Faut pas oublier que ce sont souvent des prêts qu'on a offerts aux restaurateurs. Il faut les payer aujourd'hui. Et pour les payer, il faut retrouver un chiffre d'affaires. Or, on a vu, on va en reparler très certainement dans les minutes qui suivent, que les manières alimentaires du public ont changé, notamment avec cette livraison à domicile. Donc l'équation, elle est terriblement compliquée. Et en plus, on est vraiment dans le court-termisme, c'est-à-dire qu'on est dans le feu de l'action, dans le vif, dans le présent. Donc c'est difficile à la fois d'avoir une activité et de réfléchir en même temps.
Vous dites, Emmanuel Rubin, qu'effectivement, la livraison a augmenté en particulier pendant le premier confinement. C'est un fait qu'en 2020, 46% des Français y ont eu recours contre 40% l'année précédente. La part grimpe à 78% des 18-20 24 ans, à 74% des 25-34 ans. Donc on voit bien que c'est un changement aussi générationnel qui se passe là.
Exactement. D'ailleurs, il y a des études, je connaissais pas vos chiffres, mais ils m'ont l'air d'être en tout cas corroborés, beaucoup d'études, notamment des études américaines, où on voit que les manières de table et nos manières de consommer le restaurant et même de consommer la nourriture chez nous a changé. Et c'est vrai, vous l'avez dit aussi, la crise n'a fait que confirmer une tendance qui existait déjà. Et cette tendance, elle est portée, faut-il lui reprocher ou pas? En tout cas, elle doit aussi s'interroger, elle est portée beaucoup par la jeunesse. Alors pourquoi la jeunesse va vers ces plateformes de livraison? Peut-être parce que le restaurant en soi les impressionne, ou en tout cas le restaurant est trop cher déjà. Donc il y a toute une question aussi dans l'économie du restaurant, ce fameux instant qui est la dernière instance du restaurant, c'est-à-dire celle de l'addition. Moi, en tant qu'observateur, je trouve que beaucoup de chefs, beaucoup de restaurateurs se posent beaucoup de questions sur l'expérience du restaurant, sur le service, mais ils oublient cet instant qui est celui de l'addition. qui a fait que beaucoup de gens l'ont quitté parce que c'est trop cher. Alors je sais bien qu'il y a des contingences là aussi qui fait que notamment dans les villes, faut payer son loyer, son bail commercial, mais s'ils ne travaillent pas d'abord sur l'addition et sur le prix du restaurant, ça ne va pas aider les jeunes générations à retrouver le chemin des tables.
Alors une des choses qui a émergé aussi pendant ces confinements et qui continue de croître au fil des mois, c'est ce qu'on appelle les dark kitchens, c'est-à-dire les cuisines fantômes qui sont dédiées à la livraison uniquement. Elles sont souvent diabolisées, hein. Certains ont dit que ça allait remplacer les restaurants, d'autres que ces restaurants virtuels contribuent à l'ubérisation de la restauration. Matteo Carantin, qui est évidemment avec nous ce midi, a mené l'enquête sur un phénomène, Matteo, qui a explosé ces derniers mois.
Oui Caroline, moi j'ai voulu m'aventurer dans la dark kitchen. On en comptait 1500 en janvier, elles seraient déjà 2000 à concocter plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et vous le disiez, 46% des Français, 78% chez les jeunes se sont fait livrer cette année, et souvent par des restaurants qui n'existent pas en réalité. C'est ça, la dark kitchen, un espace qui rassemble plusieurs restaurants entièrement virtuels. Ainsi, si vous hésitez sur votre application entre deux restos, il est probable que ce soit au même endroit que deux cuisiniers côte à côte vous préparent à manger. Alors, j'ai voulu en visiter une pour me faire une idée. C'est Street Lab à Paris qui a accepté de m'ouvrir ses portes. Dans ce laboratoire vitré du chef star Juan Arbalez, quatre cuisines se partagent les lieux.
Alors en fait ici chez Street Lab, on a repris une marque que l'on a en restaurant aujourd'hui. On a quatre restaurants Yaya en Ile-de-France et en plus de ça, on a créé différentes marques. On en a créé une qui s'appelle Grand Burger, qui est spécialité burger, une qui s'appelle Pola Poke et une quatrième qui est du poulet frit. L'idée a été de faire ces marques ici pour les tester en vente à emporter et si ça plaît à la clientèle, l'idée est d'ouvrir des restaurants à leur nom.
100 couverts par jour, dont 10 de vrais clients qui se déplacent physiquement pour faire leurs commandes devant le laboratoire. Street Lab est dans la moyenne des dark kitchens qui dépassent pour certaines 200 couverts par jour. De quoi faire baver, donner envie aux restaurateurs en difficulté depuis la crise de Covid-19 à qui plusieurs marques proposent de transformer leur restaurant en laboratoire. Exit les tables, place au fourneau, tout espace est bon à prendre, surtout quand ça coûte 5 à 8 fois moins cher qu'un resto classique. Forcément, sans le service et sans le mobilier, la dark kitchen coûte moins cher. Alors, le restaurant est-il en danger? Vous posiez la question, Caroline. Faut-il réglementer ces laboratoires? Est-il possible de faire aussi bon quand il faut surtout faire très très vite? Pour Jean Valfort, à la tête de Devor, l'un des leaders du marché en France, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dark kitchen et restaurants ne sont pas en concurrence, mais ce sont bien deux mondes qui vivent côte à côte. Mais alors, pourquoi tant de réticence?
C'est un sujet capital pour nous, la restauration. Donc forcément, quand on commence à essayer de chambouler un peu les codes, ça fait parler. Puis je pense que le changement de façon générale est quelque chose qui parfois peut générer des critiques. Je pense que le terme en lui-même, ce terme dark kitchen, ce côté sombre, obscur, ne joue pas en sa faveur. Et on a tendance parfois à s'imaginer des conditions de travail très difficiles pour les cuisiniers. Mais en ce qui concerne la cuisine en elle-même, il n'y a pas des conditions particulièrement différentes de celles d'un restaurant traditionnel. Un restaurant virtuel n'est rien d'autre qu'une forme de cuisine partagée pour les urbains et on leur commande à manger quand on n'a pas le temps de le faire soi-même.
Alors moi, j'avais pas le temps jeudi soir et en sortant de Street Lab, j'avais un petit creux. J'ai décidé de me commander une pita à l'agneau. Il était 42 lorsque j'ai cliqué sur l'écran géant devant la cuisine. À 45, une vitre s'ouvrait et une pita était là, prête à se faire croquer. 3 minutes, qui dit mieux? Il ne me restait par contre plus qu'un endroit où trouver la manger.
Merci Matteo Caranta. Emmanuel Rubin, vous avez un avis sur l'essor de ces dark kitchens, concurrence ou complémentarité avec les restaurants? Est-ce qu'on ne peut pas dire que ça remplace plutôt la cuisine à la maison, voire le plat préparé tout fait, plutôt que le restaurant tout simplement?
Vous venez de le dire, moi le problème il est sémantique. J'en ai un peu marre qu'on me parle de restauration et de restaurant. Un restaurant, ce n'est pas ça. Un restaurant, c'est une histoire qui naît du 19e siècle. Un restaurant, ce n'est pas simplement une affaire d'assiette. Un restaurant, c'est un quartier, c'est un arrondissement, c'est un paysage, c'est un service, c'est un accueil, c'est un décor. On va au restaurant. On se déplace, c'est peut-être pas un des beaux-arts, mais c'est une culture. Donc moi, j'aimerais qu'ils oublient le mot de restaurant, alors qu'ils l'utilisent bien. Donc je trouve qu'ils s'arrangent tous beaucoup. Ensuite, il y a des choses qui m'affligent dans la sémantique et qui racontent beaucoup de choses. La jeune fille qui parle de la première dark kitchen n'arrête pas de parler nos marques. Vos marques, ça sent pas tellement le restaurant. Parlez-moi éventuellement d'enseigne, mais de marque. On sent que derrière, il y a l'envie de faire un business. Donc pour moi, il n'y a aucune complémentarité avec le restaurant. C'est même l'ennemi juré du restaurant. Et pour aller très vite, souvenez-vous, dans les années 60, 70, 80, l'émergence de la grande distribution distribution des hyper, des super, des maxi-marchés qui ont tué quelque part ce petit commerce de proximité. Aujourd'hui, tout le monde en rêve, le fantasme. N'empêche qu'il a été tué pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était complémentaire. On voit ce que ça donne dans nos campagnes, dans nos provinces, voire dans nos villes. Et c'est ce qui va se passer au restaurant si personne n'est vigilant. Et dans 30 ans, on dira, le même monsieur qu'on vient d'entendre, nous dira, mais nous, c'est pas ce qu'on voulait. Mais bien sûr, c'est ce que vous voulez. Ou si vous ne le savez pas, vous êtes en train de tuer une restauration traditionnelle, souvent de petites entreprises familiales, et on se retrouvera dans 20 ans avec la disparition dans nos villes, dans nos campagnes, de ce qui était le restaurant, un lieu de culture, un lieu d'échange, un lieu social, un lieu d'extérieur. Puis voilà.
Alors on va laisser de côté les dark kitchens, mais on va s'intéresser quand même au phénomène de la livraison et à la question de savoir si c'est intéressant pour un restaurant traditionnel de livrer aujourd'hui, s'ils ont continué ou pas, puisque de fait, ça a été l'une des voies de résistance pour beaucoup, cette livraison pendant quelques mois. On a un premier restaurateur, en l'occurrence une restauratrice en ligne avec nous, c'est Marion Boé. Bonjour Marion Boé.
Bonjour, je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions d'être avec nous. Vous êtes à la tête de deux restaurants à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Le Déjeuneur, qui est plutôt orienté brunch, qui a ouvert en 2017. Et la pizzeria Maria, que vous avez ouverte en 2019 et qui a été sélectionnée en 2020 par Le Fooding parmi les 10 meilleures pizzas à se faire livrer ou à emporter en France. Alors, est-ce que pour vous, la livraison a un intérêt, Marion Boé ?
Je vous remercie, tout à fait. Alors, en effet, la livraison, pour nous, était en 2020 le seul moyen de garder ce contact en fait avec nos clients. Il faut savoir qu'on faisait absolument pas de livraison avant le Covid. On avait vraiment une petite salle de restaurant et on faisait que de la restauration sur place. Et en octobre 2020, suite au couvre-feu, on s'est retrouvé dans cet état de panique en se disant on n'a aucun moyen finalement d'avoir nos clients avec nous. Même le emporter était vraiment limité à cause du couvre-feu. Et du coup, c'est dans cet état-là, cette urgence, et justement, comme vous l'avez si bien dit, cette résistance, que nous avons développé cette livraison. Mais pour nous, il était indispensable, vraiment, pour moi et pour mes équipes, que cette livraison se fasse en interne. C'est-à-dire que, d'accord, nous allions mettre en place la livraison parce que nous n'avions pas le choix et qu'il fallait continuer, qu'on voulait vraiment continuer de travailler et maintenir ce lien avec nos clients qui nous manquaient déjà depuis des mois et qu'on avait perdu avec le couvre-feu. Mais par contre, nous ne voulions pas passer par des plateformes de livraison classiques. Nous voulions tout faire en interne, tout gérer de A à Z, c'est-à-dire avoir nos propres salariés. Du coup, on pouvait vraiment être sûr de ce qui se passait, ne pas leur imposer justement des limites et des charges trop dangereuses et qui aussi impactait la qualité de nos pizzas et de ce que nous faisions au restaurant. Donc voilà, donc c'était vraiment, si vous voulez, la mise en place de ce système dans ce contexte bien particulier, mais une mise en place vraiment contrôlée par nous. Parce que au final, on se disait que nos salariés livreurs, c'était eux qui, quelque part, représentaient ce lien avec nos clients, ils les voyaient, ils continuaient à véhiculer, si vous voulez, cette bonne ambiance et cette image de notre restaurant.
Mais malgré tout, Marion Boé, vous avez arrêté la livraison. Ça remplace quand même pas le rapport qu'on instaure au restaurant.
Rien à voir. Je rebondis vraiment sur ce que disait Emmanuel. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous, si vous voulez, ce que je disais, c'est quelque chose qui a été mis en place dans cet état d'urgence. Parce que nous n'avions pas d'autre solution. Et on l'a fait. Et c'est ça qui était rentable. J'avais vraiment élaboré tout un business plan où je facturais la livraison exactement au prix coûtant pour nous. Ça n'impactait pas le prix de notre produit et de ce qu'on produisait, de nos pizzas et de la qualité. Mais par contre, c'est absolument pas mon métier. C'est vraiment que ce soit moi, mes équipes, moi, nos clients, il est hors de question qu'on bifurque sur ce métier qui est complètement différent et qui est la livraison. C'est vraiment de la logistique. On est dans un autre dans un autre métier.
En revanche,
du coup, à partir du
En revanche, on peut continuer de commander des pizzas à emporter en allant chez Maria. Merci beaucoup Marion Boé d'avoir témoigné de cette expérience avec nous. Vous disiez d'ailleurs que c'était indispensable de faire la livraison en interne avec vos équipes. Vous avez recruté des nouvelles personnes dans votre restaurant pour le faire. Et quand vous avez arrêté la livraison, vous avez formé les jeunes à la salle. Donc on voit bien qu'il y a un cycle vertueux. Et c'est vrai que c'est cette dimension éthique de la livraison qui ressort, puisqu'on parle pas mal de plateformes qui sous-emploient des personnes dont les conditions de travail sont problématiques. Et d'ailleurs, en 2020, face à ces dérives, disons, une centaine d'acteurs de la restauration, dont des plateformes de livraison locale, avaient signé une pétition appelant à mettre en œuvre une livraison dite éthique, qui repose sur un travail collectif entre chefs, producteurs et livreurs salariés. C'est peut-être ce que fait une plateforme qui s'intitule Épicerie, qui est le premier service de vente en ligne d'artisans de proximité. En gros, vous commandez sur le site des produits de votre commerçant préféré de quartier pour qu'il vous livre à la livraison. Et désormais, il y a une offre d'ailleurs de restauration, la table, où il est possible de se faire livrer les plats signatures de ses chefs favoris. Nous sommes au téléphone avec Julia Sedevjian. Bonjour à vous, Julia Sedevjian.
Bonjour à tous.
Vous êtes devenue en 2016 la plus jeune chef étoilée de France à 21 ans quand même. Vous êtes aujourd'hui à la tête de l'adresse Bayetta dans le 5e arrondissement de Paris et d'une épicerie traiteur, on y reviendra, qui a pour nom Cicéron, qui est née pendant le confinement. Juste un mot, parce que vous collaborez justement avec cette plateforme Épicerie. Comment ça fonctionne ?
Alors, c'est tout bête, moi j'ai connu la plateforme Épicerie pendant le confinement, parce que j'ai eu la chance de devenir maman pendant ce confinement et que il y avait des priorités et que j'avais envie de me fournir de bons produits autour de chez moi avec les commerçants que je connais. Et en fait, je commandais via cette plateforme. Et aujourd'hui, on collabore avec Épicerie sur notre épicerie Fine Traiteur à côté du restaurant gastronomique. Et c'est vraiment une plateforme pour moi qui est beaucoup plus éthique et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, regroupe des commerçants de quartier qui font bien les choses. Et moi, c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant et faire un partenariat avec des plateformes comme ça. Pour moi, ça fait la différence et sur notre clientèle et sur ce qu'on veut faire au quotidien.
Mais en l'occurrence, c'est l'épicerie traiteur et pas l'adresse étoilée qui livre, je suppose. La cuisine étoilée, exactement, étant une cuisine de l'instant, c'est peu compatible avec la livraison.
Nous, on a fait beaucoup de ventes à emporter pendant le confinement, bien sûr, parce que ça faisait un an et demi, moi et mes associés, qu'on avait ouvert le restaurant, qu'on a des prêts en cours, qu'on pouvait pas s'arrêter du jour au lendemain comme ça. Et on a fait beaucoup de ventes à emporter avec tout d'abord notre clientèle du quartier qui nous a beaucoup soutenus. Mais c'est vrai que on était obligé de faire ça pour essayer de survivre, parce que, comme le disait tout à l'heure Emmanuel, on s'est pris une grosse claque et que il faut s'adapter vite dans ces situations. Donc on l'a fait pendant le confinement sur le restaurant étoilé. Maintenant, on priorise bien évidemment nos clients sur place et c'est pas du tout le but de Bayetta de continuer la livraison. Pas du tout.
Merci Julia Sedevjian. On continue ce tour d'horizon avec au téléphone Galien Emery. Bonjour Galien Emery.
Bonjour.
Vous êtes vous cofondateur avec Adrien Ferrand du restaurant Les Brigades du Tigre. Alors c'est aussi à Paris, mais dans le 10e arrondissement. Cette fois, c'est une cuisine plutôt asiatique. Vous avez ouvert en octobre 2020, c'est-à-dire entre deux confinements. Et vous vous êtes lancé donc dans la livraison et dans la vente à emporter, puisque vous n'aviez pas le choix. Alors vous avez commencé par travailler avec les plateformes, disons, qui sont décriées aujourd'hui, pour ne pas les citer, pendant le confinement. Et puis vous êtes passé à une autre plateforme. Donc vous êtes passé grosso modo de Uber Eats à Stuart. Pourquoi ? Quelle est la différence entre les deux ?
Alors, tout d'abord, on a plongé dans la livraison après la fermeture des établissements. On était un peu perplexe et tiraillé entre soit passer justement par Stuart ou par des gros porteurs de la livraison. Et en gros, pour nous, la vraie différence, c'est que toutes ces grosses entreprises qui proposent une solution clé en main sont également des apporteurs d'affaires. Et ayant ouvert uniquement en octobre, 3 semaines avant la fermeture, on n'avait pas du tout de visibilité. Et du coup, nous avons décidé de passer par ces services-là.
Ce qui était plus facile au départ et qui vous a sauvé la mise, en gros.
Exactement. Tout à fait, ça nous a vraiment sauvé la mise. Et c'est vrai que ces services-là apportent vraiment une énorme visibilité et beaucoup de clients. Alors, il y a du positif, mais il y a également du négatif. Effectivement, ça coûte beaucoup plus cher que Stuart, parce que Stuart n'a pas de commission. Mmh. Voilà.
Mmh. Et vous avez arrêté la livraison aux Brigades du Tigre. Aujourd'hui, vous faites dans la vente à emporter, puisque ce n'est pas conciliable avec la salle.
Alors aujourd'hui, nous travaillons justement, nous avons arrêté justement de travailler. Nous travaillons avec Stuart pour les livraisons, mais uniquement pour nos clients, c'est-à-dire que c'est via notre site internet. Donc on n'a plus du tout de plateforme et on en fait très peu parce que on bloque à partir du moment où on a trop de clients. Donc, c'est-à-dire que on privilégie vraiment les clients sur place. Et comme disait Monsieur Rubin tout à l'heure, notre corps de métier, c'est vraiment la restauration et c'est pas la livraison. Et je pense que l'un et l'autre peuvent aller ensemble, mais
encadrer et pas trop longtemps.
La spécialité, c'est vraiment voilà.
C'est ça. Merci beaucoup, Galien Emery. Emmanuel Rubin.
Ouais, moi, je pense que voilà, on vient de tout entendre sur la réalité des choses. C'est pas du tout le même métier. Alors certains restaurateurs, durant la période, les mots sont employés, hein, dans l'urgence. Résistance, ils ont cherché, un peu affolés, on peut les comprendre, à trouver des solutions pour garder un lien avec leur public, parfois avec leurs fournisseurs, et puis aussi pour essayer de créer, quand ils avaient un peu de trésorerie, aussi encore un semblant d'unité dans leurs équipes. Mais on voit que c'est vraiment le temps d'une séquence, et qu'après, faut vite en sortir. Le restaurant d'après, il ressemblera, je l'espère quand même, en partie au restaurant d'avant. C'est-à-dire qu'il ne va pas se dénaturer, il ne va pas perdre sa constituante. Les plateformes, alors certaines plateformes, on l'a vu, et secteurs de livraison, essayent d'être vertueux. Et s'ils essayent d'être vertueux, c'est bien que les mastodontes du genre ne le sont pas. Parce que dans le monde de la livraison, c'est vraiment le combat de David et Goliath, avec des mastodontes financiarisés qui sont des GAFAM du food business. On ne va pas citer les noms, mais tout le monde les connaît. Et puis effectivement, une livraison qui s'essaie à être plus vertueuse. Mais on voit que dans l'ensemble, les restaurateurs en sont sortis et ne veulent certainement pas retrouver l'affaire. Parce que d'ailleurs, ça va, et ça rejoindra le début de notre discussion, ça va changer les manières de table. Et si le restaurant, c'est chez soi, alors c'est déjà pas un restaurant. Et puis surtout, c'est la mort du restaurant.
Alors ce qui n'empêche pas, et vous le disiez au début, Emmanuel Rubin, au restaurant, de se réinventer, de penser une nouvelle façon, adaptée, disons, aux nouvelles manières de consommation. Ça a permis d'ailleurs aux chefs de se poser un peu, de sortir parfois de la cuisine spectacle. Beaucoup ont remis en question le modèle du restaurant qui veut en mettre plein la vue, à des prix astronomiques. Il y a des chefs étoilés qui se sont mis à la street food, qui ont ouvert des food trucks, comme Alexandre Madia à Marseille, ou des épiceries en marge de leur restaurant. On entendait Julia Sedevjian tout à l'heure. Alain Géham, qui est chef étoilé, a ouvert lui un comptoir de crêpes et il dit, pour moi, la grande leçon du Covid, c'est que la gastronomie n'est pas que dans les assiettes haut de gamme. Nous sommes de simples cuisiniers. Il faut savoir mettre sa fierté étoilée dans la poche. Alors nous avons au téléphone avec nous un chef de restaurant 3 étoiles à Ouche. Dans la famille Troisgros, je demande le fils César. Bonjour César Troisgros.
Bonjour.
Alors la gastronomie aurait-elle gagné en humilité? Vous, pendant le confinement, vous avez sorti le vieux fourgon Citroën, vous l'avez intitulé « Petite cuisine », vous êtes allé sur la place de Roanne, vous avez vendu des pains de rue et des menus à 14,50 €. Ça, c'était une bonne alternative au McDo et ça vous a plu de faire ça?
Ah, ça nous a enchantés et c'est un petit rêve en fait qui s'est réalisé par la force des choses. Je pense que tout cuisinier rêve d'avoir sa petite cuisine itinérante, rêvait de le faire, donc c'était le moment, parce qu'on n'avait rien d'autre à faire, et donc créer du lien, continuer à entretenir ses relations avec nos clients, mais aussi en acquérir de nouveaux, parce qu'un menu à 14,50 € fait par les Troisgros, évidemment, ça attire les curiosités, et on a eu beaucoup de monde, et on a séduit beaucoup de personnes, et nous, on s'est forgé une nouvelle expérience.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience?
Déjà, ramener nos idées à une cuisine beaucoup plus simple, à manger dans la rue, tout aussi bonne, tout aussi bien faite, et puis travailler dans un petit camion qui fait 1,50 m de large, peut-être un peu plus, et par 3 m de long. Donc forcément, ça change de nos 250 m de cuisine, 250 m² de cuisine à Ouche. Donc il faut s'adapter, il faut aller très vite, il faut avoir des idées. Et je dois dire que c'est pas parce qu'on est, comme vous le dites, peut-être 3 étoiles qu'on sait faire. Oui. Au contraire, nous on est reparti de zéro là-dessus et ça nous a forgé quelque chose, d'une nouvelle corde en fait dans notre arc aujourd'hui.
Mais vous avez arrêté, vous avez rangé le vieux fourgon au garage. Vous n'avez pas eu envie de continuer ça?
Ah bien sûr, on a envie de continuer. Après le succès de Petite Cuisine, c'était à la fin 6 personnes de nos équipes qui travaillaient à plein temps pour le camion. Au moment de la réouverture, on s'est concentré sur la réouverture de nos restaurants. Et depuis le mois de mai, on est la tête dans le guidon et voilà, on n'a pas trouvé encore ni les équipes ni le temps pour remettre le camion tous les midis en ville. Mais le camion est toujours là. On fait des événements, on sort un livre sur l'histoire de la petite cuisine très bientôt. Et voilà, ce livre a été fait avec une maison.
Pour l'instant, une façon de prolonger l'expérience, mais peut-être que Petite Cuisine renaîtra un jour, en quelque sorte. Et alors, comme Julia, c'est Devjian, vous avez ouvert, César Trois Gros, un restaurant épicerie à Rouen.
Oui, ça, c'est déjà depuis 1995, ouais, c'est mes parents.
Et qu'est-ce qu'apporte le restaurant épicerie à Rouen à côté d'un 3 étoiles?
En fait, mes parents, ils ont créé le Central en 1995 pour les clients, surtout pour les Rouennais, pour leur permettre voilà, d'avoir un restaurant de qualité mais accessible. Et donc c'est devenu une adresse incontournable à Rouen avec une cuisine, des menus à entre 25 et 30 euros où voilà, on fait de la vraie cuisine mais beaucoup plus abordable comme beaucoup de chefs le font aussi dans leur bistrot. Et voilà, c'est un lieu de vie aujourd'hui à Rouen avec aussi une épicerie, des produits dénichés ça et là au gré de nos rencontres et de nos voyages.
Merci beaucoup César Trois Gros. Donc en résumé, Emmanuel Rubin, si je comprends bien, l'avenir du restaurant, c'est plutôt de retrouver son sens originel de restaurer dans un cadre de travail humain, avec des prix justes et une cuisine durable.
Oui, tout à fait. Si ce n'est que ce qu'il y a d'intéressant, moi je crois à la diversification des chefs. Il le prouve, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, il l'a dit lui-même, les bistrotiers et en même temps grands restaurants. Aujourd'hui, on voit simplement des épiceries se faire. Mais cette idée de se diversifier, elle est pas neuve. Donc pourquoi pas la poursuivre, mais en n'oubliant jamais le genre de son restaurant. C'est-à-dire qu'on peut faire un très juste grand restaurant à juste prix et puis rater aussi un café du quotidien qui lui ne soit pas au juste prix parce que derrière, comme vous l'avez dit, il n'y a rien de vertueux. Donc gardons bien les genres du restaurant. Un grand restaurant, ça c'est vertu. Un bistrot, c'est vertu. Si les grands chefs oublient d'être des grands restaurateurs et des grands cuisiniers, ça va pas le faire non plus. Ils sont pas là pour faire, à mon sens, simplement de la camionnette.
Alors, on voudrait terminer ce tour d'horizon, puisque je disais que c'était en partenariat avec le Fooding, avec quand même la meilleure table du Fooding 2022, meilleure table et meilleure chambre de style du Fooding 2022, le chef à l'auberge de la Roche, Val de Blore, dans les Alpes-Maritimes, est avec nous au téléphone. Alexis Bijaoui, bonjour.
Bonjour.
Ces débats sur la livraison et la vente à emporter, est-ce qu'ils vous concernent ou bien ce sont des débats d'urbain ?
Alors, ça nous concerne parce que je pense que la restauration, de manière générale, elle est intéressante. Il faut la suivre dans ses évolutions, ça c'est sûr et certain. Ensuite, non, nous, on est vraiment un restaurant isolé. On est une petite équipe et on a essayé pendant le début du confinement de s'adapter avec ces changements. Mais on peut pas vraiment dire que notre établissement, dans sa structure, s'adapte, enfin, pourrait vraiment plus s'adapter dans cette optique-là. Ensuite, on l'a fait un petit peu parce que c'était important aussi de offrir aux gens un peu ce qu'on fait. Mais je pense que l'auberge est intéressante dans son expérience globale quand on est présent, quand on y est présent, quoi.
Les clients sont au rendez-vous?
Les clients sont au rendez-vous. Ça, on n'a pas trop à se plaindre depuis le début. Ça, c'est pas trop problématique. Après, voilà, il faut voir un peu aussi comment l'hiver. On n'a jamais fait d'hiver ici, mais
ça va venir.
En tout cas, on voit que les gens sont réceptifs, voilà. Donc ça, c'est déjà ce qui est le plus important, je pense.
Un plat emblématique en ce moment?
En ce moment, on est fermé. On fait une pause hivernale.
Ah, pardon. Alors oui.
Mais après, voilà. En fait, la cuisine, elle change à peu près presque tous les jours. Il y a de bases classiques parce qu'on fait beaucoup de sauces. Au restaurant, et évidemment on travaille beaucoup de légumes parce qu'on a un potager qui fournit un petit peu le restaurant, en tout cas comme il peut. Voilà, donc après vraiment c'est une cuisine vivante avec des produits vivants, donc c'est vrai que ça change assez souvent quand même.
Et vous rouvrez quand?
On rouvre le 3 décembre.
Très bien, et ben on viendra pour la réouverture, on espère en tout cas que les clients seront là pour la réouverture. Merci beaucoup Alexis Bijaoui, merci à tous et à toutes d'avoir participé, merci beaucoup Emmanuel Rubin d'avoir été avec nous. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr, sur l'application de Radio France. Toute l'équipe, Roxane Poulain épaulée cette semaine par Lucie Caudrelier du Fooding, Stéphanie Villeneuve, Mathéo Caranta, June Lopère et notre technicien du jour Jean-Guilain Mège. Nous vous souhaitons tous et toutes un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signe des Temps par Marc Weitzman.